Rosny, le mystère. Le monde réel, s'écria Berthoud. Mais à quoi distinguez-vous certaines réalités de l'illusion? Qui vous dit que maintes vérités, aujourd'hui considérées comme absolues, ne fut pas aussi fictive que l'astronomie de Ptolémée? Oh, je ne nie pas la science. Je crois même que rien ne lui est absolument inaccessible. Mais n'est-ce pas, en plus encore, elle, que c'est elle qui est la plus grande fabricatrice de mystères? Pour moi, j'ai été mêlé à quelques événements si noyés dans l'inconnu qu'un authentique miracle ne m'étonnerait médiocrement. Il y a 20 ans, j'étais épris d'une jeune fille qui habitait le château des Vernes, de l'autre côté de la colline où je demeurais avec ma mère. Quoique je fusse encore à quelques printemps de la majorité, cet amour était profond. En fait, elle est le seul amour de ma vie. Hiver comme été, je l'attendais. J'attendais son passage à Maximilien F. Sur la route, près d'une source qui ombrageait une immense tilleule du temps de Louis XV. Elle y passait tout le temps, par tous les temps, à pied, à cheval ou en voiture, et s'y arrêtait quelquefois pour boire. Elle buvait comme une déesse en se mirant dans l'onde, levant une petite main à la vendique, faire sa bouche rouge comme la fleur du balisier. Et c'est ce geste qui m'ensorcela tout d'abord. Elle me saluait et me disait quelques paroles qui sonnaient aussi gentiment que la source contre la margelle. Devina-t-elle alors que je l'aimais? On en peut douter, car elle était naïve. Je pense qu'elle s'abandonnait tout au plus à une coquetterie légère et sans cruauté. En 1800, elle partit avec sa famille vers le commencement de l'été. Je tombai dans une tristesse qui nous pensait même me mener à la mort. J'errais les joues creuses, les jambes molles, plein de langueur, autour du château de Vernes, ou bien je rêvais durant des heures devant la source. Un jour, quelqu'un dit à ma mère que Maximilienne était fiancée. Cette nouvelle me jeta dans un délire. C'était un jour de septembre. L'ouragan et la pluie s'entremêlaient sur nos campagnes. Je me sauvai dans la forêt. Je courus jusqu'à la fin, jusqu'à la nuit, chassé par la douleur, comme une bête fauve. Et vers le soir, je m'évanouis au bord d'une mare, où des bûcherons me ramassèrent. Pendant un mois, je demeurai entre la vie et la mort. Et dans mes accès de fièvre, je révélais la cause de mon mal. Les domestiques eurent trop fait d'en colporter la nouvelle à travers le pays. Je ne me relevais qu'au mois de novembre. Ma première sortie fut pour la source. J'obtins de n'être pas accompagné. Le grand tilleul séculaire achevait de perdre ses feuilles. Elle tournait comme une foule d'être fragile. Quelques-unes flottaient à la surface de l'eau. Je m'étais assis sur une des fortes racines de l'arbre. Une image enchanteresse flottait dans la brume. Mon cœur palpitait comme une bestiole blessée. Et peu à peu, de grandes larmes se mirent à couler sur mon visage. En ce moment, le bruit d'une chevauchée se fit entendre, et j'aperçus Maximilienne qui s'avançait sur un grand cheval alezan. Un jeune homme galopait à ses côtés. Elle m'aperçut, elle dit quelques mots à son compagnon, puis il hocha la tête d'un air grave et doux et piqua des deux. Elle était descendue de cheval. Elle approchait à pas lents comme craintive. Elle avait encore embelli. Une flamme plus troublante s'échappait de ses grands yeux améthystes. Sa bouche était plus rouge et plus terrible. Je tremblais comme un criminel. Je souhaitais mourir. Et quand elle fut proche, elle prit doucement ma main et me dit tout bas: Pardonnez-moi. Quoique innocente, je me repens amèrement de vous avoir fait souffrir. Elle me regardait avec une douceur infinie. Souvenez-vous, dit-elle, que je suis votre débitrice, et si jamais je puis faire quelque chose pour votre bonheur. Hélas, m'écriai-je, navré. Il n'y avait qu'un seul bonheur pour moi. Qui sait? fit-elle. Et il arriva quelque chose d'étrange. On eût dit qu'une force occulte précipitait le temps, que des années s'écoulaient en une minute. Le visage de Maximilienne se transforma. Il parut d'un autre temps, d'une autre époque, dans un autre être. Son regard avait quelque chose d'indiciblement ingénu et nouveau. C'était une lueur d'avenir, un de ces frôlements, l'existence futur, où il semble que les âmes se métamorphosent. Et elle murmura comme en rêve: Je ne cesserai pas un seul jour de penser à vous. Longtemps après qu'elle eût disparu sur la route, je gardais une impression de mystère. J'étais moins triste, et tout au fond de mon instinct, une espérance s'était levée, incertaine et minuscule comme la semence d'un arbre dans la terre. Mais qu'est-ce qui est plus fort qu'une semence? Toute la puissance d'un grand chêne, toute la longévité d'un cèdre est en elle. Des années s'écoulèrent. Je m'étais exilé. Je menais au Mexique une vie aventureuse. Je gagnais d'inutiles millions dans les mines d'argent. Le souvenir de Maximilienne me hantait comme au premier jour. Mon cœur stérilisé par cette passion vaine demeurait insensible à la souple beauté des Mexicaines. Sans famille depuis la mort de ma mère, sans nouvelles de France depuis la troisième année de mon départ, je travaillais pour travailler, attendant avec impatience que la terre voulût bien me reprendre. Alors j'arrivais ainsi dans ma 35e année, et un soir que je respirais l'air dans mon jardin, je sentis tout mon être en grand frisson. Puis il me sembla voir derrière les goyaviers et les orangers, à la lueur des larges étoiles de la Sonora, le vrai tilleul et la source où j'attendais jadis Maximilienne. La vision fut si précise que j'en criais. Elle s'évanouit lentement, et j'entendis une voix qui semblait venir d'une distance infinie. J'ai l'impression bien nette que quelqu'un me rappelait dans mon pays. J'obéis à mon instinct. Je m'embarquais pour la France. Et déjà, novembre assemblait ses nuages quand j'arrivais à Bordeaux. En route, mon pressentiment s'était effacé. Il ne me restait qu'un mélancolique désir de revoir ma colline, nos forêts, nos clairs pâturages. Et quand je descendis à la petite gare de Pervenche, je résolus d'aller d'abord en pèlerinage à la source. C'était un après-midi. Les souvenirs se levaient à chacun de mes pas lents et chagrins, comme les nues grises qui cheminaient au firmament. Enfin, le vieux tilleul fut là. La source chanta sa grêle chanson de nymphe. Rien n'avait changé. C'était la même atmosphère, la même buée frissonnante à la cime des arbres, les mêmes feuilles tournant avec un petit bruissement, tombant avec un petit bruissement mélancolique, que le jour où j'étais sorti de ma chambre de convalescent. Ce fut aussi la même douleur qui remplit mon âme. Ah, pensais-je, je devrais être mort. Le bruit d'une chevauchée se fit entendre, et j'aperçus Maximilienne qui s'avançait sur un grand cheval alezan. Je poussai un cri bas, étouffé. Tandis qu'elle descendait de sa monture et marchait vers moi. Ce n'est que lorsqu'elle apparut toute proche que l'illusion se dissipa, mais pour faire place à une réalité fantastique dans la toute jeune fille debout auprès de moi, dans le divin et pur visage, dans le grand tremblement ingénu, je reconnus cet autre être d'une autre époque. Il m'était apparu dans Maximilienne il y avait 17 ans. Vous avez compris déjà, poursuivit Luc d'un air rêveur, celle que je rencontrais à mon retour près de la source. C'était la fille de Maximilienne morte depuis plus de 14 ans. Par quel extraordinaire concours de hasard ou de mystère des volontés était-elle justement alors ce jour-là? Pourquoi avais-je pu la connaître d'avance et sur son autre visage que le sien? Pourquoi sentit-elle qu'elle devait aimer un inconnu qu'elle voyait pour la première fois? Je tiens tout cela pour inexplicable. S'il n'y a pas des énergies conscientes qui se mêlent de notre destinée, aussi, chaque fois que je songe à mon bonheur, chaque matin et chaque soir lorsque je prends ma compagne contre moi, contre mon cœur, je ne puis m'empêcher de remercier les forces inconnues de l'univers.